Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous écoutez le programme de Studio Tamani, il est 18h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal dont voici les titres. La France menace de se retirer du territoire malien si un éventuel contrat se conclut avec la société russe Wagner. Les autorités maliennes ne confirment pas la signature d'un quelconque accord, mais attendent de diversifier ses partenaires. Une vidéo de maltraitance contre une jeune femme de 27 ans sur les réseaux sociaux suscite l'indignation. Sur ces images tournées à Nioro du Sahel, une jeune femme accusée de sorcellerie est torturée par une voyante et ses disciplines. En prélude aux festivités de la fête de l'indépendance du Mali, la rédaction fait un zoom sur l'armée malienne après les indépendances et celle d'aujourd'hui. Des spécialistes estiment que de 1961 à 1991, l'armée malienne était plus disciplinée et mieux équipée. Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Imrana Kilomaïga, mise en onde Gagny Kanté. La France s'est dit préoccupée par les discussions entre le Mali et la société privée russe Wagner. Le pays menace de retirer ses troupes du territoire malien si un éventuel accord était conclu entre le Mali et cette société russe. À la direction de l'information et des relations publiques de l'armée, on affirme que le Mali n'a signé aucun accord avec aucune société, alors que des sources proches du président de la transition affirment qu'il ne s'agit que de rumeurs. Adam Amadou Haïdara.
Le ministère malien de la Défense affirme qu'aucune signature de contrat entre le Mali et une société russe quelconque n'a eu lieu. Cependant, le Mali discute avec tout le monde, indiquant au niveau de ce département stratégique. Une source proche de la présidence en renchérit, ce n'est qu'une rumeur et nous demandons à quelqu'un d'apporter la preuve du contraire. L'agence Reuters a rapporté ce lundi que la junte au pouvoir étudie la possibilité de conclure avec Wagner un contrat sur le déploiement d'un millier de paramilitaires russes au Mali. Objectif, former les forces armées maliennes. Elle a indiqué que ces mercenaires devront également assurer la protection des dirigeants actuels du pays, suffisant pour susciter l'inquiétude et le courroux des autorités françaises. Cette éventuelle implication de la société russe Wagner au Mali serait incompatible avec la présence française, a déclaré Jean-Yves Le Drian devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Sa collègue de la Défense a elle aussi abondé dans le même sens. Ce serait extrêmement préoccupant, contradictoire et incohérent avec tout ce que nous avons entrepris depuis des années et tout ce que nous comptons entreprendre en soutien des pays du Sahel, a déclaré Florence Parly.
L'Allemagne aussi a mis en garde contre toute coopération militaire avec la Russie. Selon la ministre allemande de la Défense, un accord entre le Mali et la société russe Wagner remettrait en cause le mandat de l'armée allemande. Le Mali pourrait perdre des partenaires stratégiques si jamais les Russes venaient à prendre pied dans le pays. C'est ce que pense Boubacar Salif Traoré, directeur de cabinet Afrique Globe, conseil spécialisé sur les questions de défense et de développement dans l'espace G5 Sahel. Selon lui, pour mettre en place une armée forte, il faut des instructeurs locaux qui puissent former l'armée nationale. Il est joint par Studio Tamani.
La première conséquence serait une évolution géopolitique en termes de relations internationales. C'est-à-dire, la France a été claire. La France est aujourd'hui le premier partenaire stratégique du Mali, à la fois sur la question sécuritaire, mais aussi sur la question économique. Et la France n'est pas toute seule. Il y a aussi l'Union européenne, il y a les États-Unis, qui parlent des États-Unis, parlent aussi du bloc FMI, Banque mondiale. Donc, finalement, c'est tout ce bloc-là qui risque de se mettre en marge si jamais les Russes venaient à prendre pied au Mali. Donc c'est vraiment une réflexion profonde qu'il faut avoir à ce sujet et déterminer avec précision quel est l'intérêt du Mali. Il ne s'agit pas d'aller traiter avec tel ou tel, mais c'est de réfléchir en profondeur pour voir, en changeant de partenaire stratégique, qu'est-ce que nous pouvons gagner et qu'est-ce que nous pouvons perdre.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Une jeune femme de 27 ans accusée de sorcellerie a été maltraitée par une voyante et son acolyte à Nioro du Sahel. Les faits relayés dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours ont provoqué l'indignation de nombreux citoyens. Quant à l'association malienne de droits de l'homme AMDH, elle dénonce ces violences et invite à l'arrêt de ce genre de vindictes populaires. Maître Mokhtar Mariko, président de l'association malienne de droits de l'homme AMDH, joint par Aïssa.
Il y a un sentiment d'indignation par rapport à ces images-là. Même si on reproche à cette dame des comportements déviants, ce n'est pas à eux de la prendre et de la mener sur la place publique et de lui asséner des coups. La sorcellerie est réprimée par le code pénal malien. Il fallait tout simplement saisir les autorités judiciaires afin qu'elles ouvrent une enquête indigne de la part de ceux qui ont fait ça et ce n'est pas digne de notre culture. Au Mali, on n'a jamais vu ça et on ne voudrait plus jamais voir ça. Nous allons continuer à investiguer, à identifier les auteurs et à demander l'avis de la victime. Si elle entend se faire accompagner par une association ou bien un avocat, nous sommes prêts pour l'accompagner afin que justice soit rendue.
L'armée malienne de 1961 à 1991 était la plus disciplinée et la mieux équipée. C'est dimanche ce qu'affirment des militaires à la retraite et des spécialistes des questions sécuritaires. Selon eux, le recrutement au sein des forces armées se faisait sur la base du volontariat pour les militaires, alors que l'intégration à la gendarmerie se faisait sur concours. Mais aujourd'hui, ils remettent en cause le mode de recrutement gangréné par le népotisme et le favoritisme. Écoutons ce reportage lu par Idrissa Sako.
Militaire à la retraite à Yorosso, Dramane Goïta a intégré l'armée en 1957. Il fait partie des premiers contingents de l'armée du Mali. Il explique comment se faisait le recrutement au sein des forces armées de défense et sécurité.
Une fois qu'on t'a appelé, que tu es apte, on te prend. Que tu sois instruit ou bien non instruit, on te prend. Mais maintenant, on dit si tu n'as pas un bac ou bien tu n'as pas de DEF, tu ne rentres pas dans l'armée. Donc ça, c'est autre chose. Nous, on ne connaît pas ça.
Des propos corroborés par Kantigi Koulibaly, militaire à la retraite à Kouchala. Il affirme que la défense de l'armée commence depuis le recrutement.
Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Le recrutement est difficile maintenant, ce n'est pas dans les normes. Avant, si on te recrutait, c'est que tu as la capacité. Mais actuellement, vous voyez tous comment ça se passe. C'est un mal global. Des gens chétifs, qui ne sont pas disciplinés, qui ne sont pas polis. Actuellement, l'éducation même, c'est là que ça faille. Pour être un bon militaire, il faut avoir été bien éduqué.
Selon certains spécialistes des questions sécuritaires, les défis de l'armée malienne de nos jours sont le népotisme, le clientélisme, la corruption. Mahamadou Konaté, directeur général du conseil Donko pour la gouvernance et la sécurité.
On a acheté des postes ici, des places ici, dans les écoles militaires. Et les places se négocient jusqu'à aujourd'hui encore dans la police, au moment des recrutements, dans la gendarmerie, dans la douane, pour faire des coups de millions. Donc, on recrute des gens qui n'ont pas forcément envie ou n'ont pas forcément l'amour du métier.
En attendant, tous appellent à mettre le volontariat et la probité morale au cœur des critères de recrutement dans l'armée.
Jusqu'à la semaine prochaine, vous pouvez suivre des productions sur le 22 septembre du Mali, fête de l'indépendance du pays. Les Aigles d'âme ont reçu le drapeau national pour l'Afro-Basket Cameroun 2021. La cérémonie s'est déroulée hier mardi à Bamako. Cette compétition se déroule au moment où certaines joueuses dénoncent le non-paiement des primes datant de 2019. Dans son discours, le ministre des Sports rassure que tout sera mis en œuvre pour que les joueuses aient leurs droits. Si cela rassure certaines d'entre elles, d'autres se montrent sceptiques. Plus de détails avec Issa Oumar Togola.
Il était 10 heures. Les joueuses se préparaient à s'envoler pour le Cameroun. Mais dans les couloirs de l'hôtel Columbus, les rumeurs couraient sur un possible refus de certaines joueuses de se rendre à la compétition. Seul motif, le non-paiement des arriérés des primes de 2019 que certaines attendent toujours. Avant la remise du drapeau à l'équipe, le ministre du Sport, Moussa Ag Attaher, a pris l'engagement de résoudre ce problème.
Je voudrais que vous rassurez pour tous ceux qui sont dans des situations d'arriérés des primes. Nous sommes en train de tout faire pour que cela se règle. Mais d'ores et déjà, nous nous battons dans le présent pour qu'aucune prime ne soit impayée.
Un discours engageant qui rassure certaines joueuses de l'équipe comme Djenaba Ndiaye qui ne cache pas sa satisfaction.
Je peux dire qu'il m'a rassuré parce qu'il a parlé publiquement. Et s'il honore cet engagement, nous serons contents.
Par contre, Nassira Traoré, capitaine de l'équipe, prend ses promesses avec beaucoup de réserves. Malgré ce manque d'assurance, elle affirme qu'elles sont prêtes à se battre pour le Mali et remporter la coupe.
Nous, on réclame ce que nous, on réclame. Il dit qu'il n'était pas là. Du coup, ça ne nous rassure pas du tout. Donc, on attend, on verra ce qu'il va nous dire après. De toute façon, nous sommes des Maliennes. On joue pour le Mali.
L'Afro-basket féminin va se dérouler au Cameroun du 18 au 26 septembre prochain. Le Mali, logé dans la poule D, aura comme adversaire la Côte d'Ivoire et la Tunisie.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Direction Gao, une pirogue a chaviré hier aux environs du village de Koima dans la commune de Gounzouré, région de Gao. Sur les 6 passagers à bord de l'embarcation, 4 ont pu être sauvés. Des témoins affirment que les recherches sont en cours pour retrouver les 2 autres passagers probablement morts noyés. La 5e édition du tournoi Interligue de basketball a pris fin hier à Ségou. Les basketteurs des régions de Ségou, Kay, Koulikoro, Mopti, Sikasso, Tombouctou, Gao et Bamako, en filles et garçons, étaient en compétition. Le tournoi consistait à trouver des équipes pour le championnat national de première division la saison prochaine. À l'issue de rencontres, les équipes de Djoliba, d'Itata National de Sikasso, en nom ainsi que les équipes d'âme de l'Union des Forces Armées et de Sécurité SFAS participeront au championnat de première division. Elle a été organisée par la Fédération malienne de basket. À présent, nous recevons Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Quel thème sera abordé ce soir?
Comment inciter les acteurs du secteur privé à financer l'assistance juridique et judiciaire? C'est le thème central de notre Grand Dialogue de ce soir, réalisé en partenariat avec Mali Justice Project, MJP. Nos invités sont Oumumboli Diallo, présidente en exercice du cadre de concertation Hakeo Sabatili, Maître Luri Nkouyesom, chef de file de la composante 2 accès à la justice au sein de MJP, Abdrahaman Kone, responsable juridique Coris Banque Mali.
Merci Maria Maïga et bon débat. Ainsi se referme cette édition qui vous a été présentée par Imrena Akilou Maïga. Vous avez la possibilité de réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org ou en appelant sur Viamo au 37 321. Le projet Rédévabilité publique et participation des femmes au Mali appuie les comités de veille citoyenne afin que celles-ci puissent jouer pleinement leur rôle. Cet appui se manifeste sous plusieurs formes, notamment la mise en place de ce comité et la formation de ses membres. Le magazine du projet Rédévabilité publique et participation des femmes au Mali, en partenariat avec Coateur International, est présenté par Khalifa Goïta.
Un comité de veille citoyenne est un groupe organisé de la société civile qui suit les problèmes prioritaires d'une région, encercle une commune. Il contrôle pour la bonne marche de la cité, la gestion publique, la planification et l'exécution correcte des ressources pour le bien de la population. Au Mali, les comités de veille citoyenne sont les démembrements du Conseil national de la société civile. Amidou Traoré, président des comités de veille citoyenne du Conseil national de la société civile.
Au Mali, ces comités de veille sont une représentation, c'est-à-dire qu'il faut être d'une association, pas d'un organe politique, mais il faut être d'une association de la société civile y afférent au Conseil national de la société civile. Ça veut dire que vous avez adhéré au statut et règlement du Conseil national de la société civile. Vous avez accepté de travailler dans le cadre des missions. Et ces missions, c'est quoi? Aujourd'hui, le Conseil veille à l'exécution des politiques et des programmes. Et tout ce que nous faisons, c'est des questions de rédévabilité. Nous interpellons les maires, nous interpellons les autorités politiques, communales, à rendre compte.
Depuis 2018, le projet Rédévabilité publique et participation des femmes au Mali appuie le Conseil national de la société civile par la création et la dynamisation de 60 comités de veille citoyenne dans les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Cet engagement vise à promouvoir la gouvernance inclusive et le renforcement de la reddition des comptes, notamment sexo-spécifiques. Djaminatou Diarra, experte nationale en gouvernance et mobilisation communautaire du projet Rédévabilité publique et participation des femmes au Mali.
Ce partenariat porte principalement sur la dynamisation du Conseil national de la société civile, mais ce à travers la dynamisation des comités de veille citoyenne, qu'on appelle communément les CVC. On les a formés à mieux comprendre déjà le mécanisme du Conseil national de la société civile, ses relations avec les autres partenaires auprès desquels le projet apporte aussi des appuis. Il s'agit du bureau du vérificateur général du pôle économique et financier. Ces renforcements des capacités ont porté aussi sur le fait de leur faire comprendre leur rôle et responsabilité dans la gestion des affaires publiques, donc dans la gestion de leur commune.
Les comités de veille citoyenne appuyés par le projet sont de nos jours à l'avant-garde d'une gouvernance participative et inclusive. Ils veillent sur la qualité de la livraison des services sociaux de base et la lutte contre la corruption. Hadja Djenebasso, présidente du comité de veille citoyenne de la commune 6 de Bamako.
Ça nous a permis d'abord de nous organiser, de jouer pleinement notre rôle dans la citoyenneté de notre commune et aussi d'approfondir notre connaissance, d'appeler les autres organisateurs à nous organiser pour le développement durable de notre commune.
Ce magazine a été réalisé par le projet Redevabilité publique et participation des femmes au Mali, financé par Affaires mondiales Canada et exécuté par Co-Author International pour le bien-être socio-économique des filles et des femmes au Mali.